Pierre-Étienne Joie.
Le Val de Bagne, une lave torrentielle a détruit le pont d'accès au village de Lourtier, en Valais, la localité inaccessible en voiture. Seul un chemin pédestre permet de rejoindre le fond de la vallée en cas d'urgence. Il s'agit d'un pont fusible, c'est-à-dire qu'il avait justement été conçu pour céder en cas d'événement majeur afin d'éviter des dégâts plus graves. La lave torrentielle a néanmoins surpris par sa puissance. Et à Blatten, les recherches ont repris pour retrouver l'homme disparu. Des personnes et des engins s'activent sur place. L'appel mécanique est également engagé. Une observation permanente est assurée par les pompiers ainsi que par l'armée. Une dizaine de morts dans un bombardement israélien à Gaza. La défense civile annonce le décès de 14 personnes dans un bombardement israélien à une habitation de Jabalia, la ville dans le nord du territoire palestinien. Il y a 6 enfants et 3 femmes parmi les victimes. Une immense colonne de cendres, de gaz et de roches s'est échappée ce lundi du mont Etna en Sicile. C'est le plus grand volcan actif d'Europe. Une partie de son cratère s'est probablement effondrée. L'activité du volcan a évolué en fontaine de lave. Une alerte rouge a été émise. Microsoft investit 400 millions de dollars, soit 326 millions de francs suisses, dans les domaines du cloud et de l'intelligence artificielle en Suisse. Les centres de données existants dans les régions de Genève et de Zurich, entre autres, seront développés dans ce cadre. L'entreprise souhaite ainsi répondre à la demande croissante de services du cloud et de l'intelligence artificielle. Le futur gymnase du Chablais à Aigle, dans le canton de Vaud, a franchi une étape symbolique avec la pose de la première pierre. L'établissement qui pourra accueillir 1100 élèves, il ouvrira pour la rentrée d'août 2027. Florian Villette, le promoteur de la capsule de suicide assisté Sarko et président de The Last Resort, est décédé. Une annonce faite sur le site internet de l'organisation suisse d'aide au suicide, selon le Tages Anzeiger. L'avocat de 47 ans aurait mis fin à ses jours suite à la première utilisation en Suisse de Sarko en septembre dernier. Il avait été placé en détention provisoire, puis libéré. La météo... Des nuages encore ce soir et puis aussi de la pluie. Demain, même type de temps et ce sera la même chose pour la fin de la semaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
En 2012, près de 1500 œuvres d'art sont découvertes dans le sombre appartement munichois d'un vieil homme, Cornelius Gurlitt. Son père Hildebrand était l'un des 4 marchands d'art d'Hitler. Je m'appelle Agnès Léveillé et je vous raconte la folle histoire de la collection Gurlitt. Son origine trouble, ses secrets enfouis et les questions brûlantes qu'elle soulève aujourd'hui encore en Suisse dans les domaines de l'art, de la mémoire et de la justice. Le podcast L'affaire Gurlitt, une ombre au tableau est à retrouver tous les lundis sur l'application Play RTS et sur rts.ch/audio.
Drôle d'époque. Mélanie Crovalian, Simon Mathé Doré.
Drôle d'époque, deuxième heure, toujours réalisé par Bastien Testori, qui me confiait hier, ou non, pas hier, et tout à l'heure, hors antenne, qu'il a failli devenir cuisinier. Il me fait chute comme ça du doigt.
Qui
a failli devenir cuisinier. Il s'est lancé dans l'affaire il y a quelques années du côté des viands, mais voilà, heureusement pour nous, il est réalisateur.
On pourrait lui faire des bons. Maintenant que je sais ça, je vais lui demander de nous apporter à manger.
C'est vrai qu'on pourrait lui demander d'autres choses maintenant qu'on sait ça de sa biographie. Je dis ça parce que nous sommes toujours en compagnie du chef Jérémy Cordier, chef du nouveau restaurant Racine Nouveau, parce qu'il a ouvert le 4 avril 2025. C'est un restaurant-ci au sein de l'hôtel Bon Rivage à la Tour de Paix sur les rives lémaniques. Faut y aller, c'est un écrin, vraiment les pieds dans l'eau. Lui, ce qu'il aime, c'est l'approche ultra-locale, inspirée par la nature, par les plantes sauvages. Il ne servira rien dans l'assiette de ses clients qui ne sera pêché ou cultivé à plus de 70 kilomètres. Alors, il y a deux exceptions, on en parlait là aussi aux antennes, Jérémy Cordier. Bah oui, le café forcément,
oui.
Et le chocolat.
Et le chocolat, oui. C'est les deux seuls ingrédients où on dépasse les 70 kilomètres et dont on est, entre guillemets, obligé de garder dans l'hôtel parce qu'on a des petits déjeuners, donc il faut garder...
Ouais, le café c'est quand même incontournable.
Oui,
Mais le thé ?
Mais le thé, alors on travaille avec... avec différents producteurs, de personnes qui font sécher des plantes et qui eux mettent un petit peu de thé, ils mettent du thé vert, du thé noir dedans.
Ça pousse ici ?
Ouais. Mais c'est fait ici. Ouais.
Mais le café, ça peut pas pousser ici ?
Non, mais en tout cas, j'en connais pas. Donc, on peut lancer un appel, mais non.
En altitude, parce que le café est généralement cultivé, je pense à la Colombie, c'est des hautes zones, des zones de haute altitude. On pourrait imaginer planter du café ici. Non, on est trop au nord. Je suis pas spécialiste, ouais.
Aucune idée. Mais non, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, non, je ne connais pas de producteur de café.
Ni de chocolat.
Ni de chocolat en Suisse, oui.
On a parlé de ce qu'on a dans l'assiette, ce qu'il y a dans les verres, du vin en général ou d'autres boissons délicieuses. Ça aussi, vous appliquez la règle des 70 km pour le vin servi.
Oui. Donc là, c'est vraiment le directeur de salle, Vincent Géa, qui s'en occupe et qui a aussi, avec la directrice, ils ont vraiment un gros réseau. Donc, ils sélectionnent du très très bon vin dans ce périmètre-là et pour trouver une alternative, notamment au champagne.
Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a du vin qui est
du vin
avec les bulles qui est fait dans le Val de Travers, non ? Pas très loin.
Non, ouais. Ben là on se rapproche de chez vous, Genève, où là ils ont trouvé un vin pétillant, méthode champenoise et qui est absolument sublime.
Ouais. Ouais. Donc ça marche comme ça. Et pourtant dans les grandes surfaces on voit du vin australien, du vin californien, ça chilien. C'est très facile, du vin chilien, c'est très facile à trouver ça. Ouais. Quand vous voyez ça, est-ce que votre sang ne fait qu'un tour ou est-ce que vous dites, bon, c'est la loi du monde, je passe là-dessus? Quelle est votre réaction quand vous voyez ça, Jérémy Cordier, quand vous faites vos courses?
Je suis un peu, comme tout le monde, je pense, un peu choqué. Moi, c'est surtout la saisonnalité des fruits et des légumes où il y a toujours une constante. Hein. On trouve des fraises tout au long de l'année, on parlait des asperges tout au long de l'année. Et puis pour le vin, c'est pareil. Maintenant, il faut trouver... C'est un phénomène de tendance aussi, de dire j'ai bu du vin argentin, j'ai bu du vin californien ou alors du vin russe. Enfin, voilà, il y a quand même, ça reste une minorité. On en trouve beaucoup moins que des vins français ou suisses. Mais c'est.
Je connais des gens qui disent c'est même pas du vin, c'est un goût tellement différent.
Oui, parce que puis en plus c'est pas le meilleur vin de chez eux qui arrive chez nous, donc bon.
C'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule, mais on en boit parce qu'il est possible d'en acheter ou on en vend parce que certains veulent en boire? Enfin, vous voyez le sens de la question. Ouais. Et moi, je me pose toujours cette question. Vous en pensez quoi?
Alors, est-ce qu'il y a une véritable demande pour boire du vin argentin ou chilien? Je sais pas. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est plus tendance, ouais.
Si je me trompe pas, il est souvent moins cher que le vin suisse.
Ah, complètement, ouais. Ah, complètement.
C'est ce qui est un paradoxe total.
Et puis, il y a les étiquettes aussi. On voit marqué Argentina ou Chili dessus. Voilà, on le prend pour la découverte. Mais à moins de rentrer chez un vrai caviste et qui, lui, peut nous orienter vers un vin de ces pays-là.
Bon. Est-ce qu'il faudrait les lois contre ça, empêchant de vendre ce genre de produits? Ça irait trop loin?
Oh, je pense qu'on irait un peu trop loin.
Ouais.
Contre les fraises en plein hiver.
Ah, alors là, oui, là, je médite là.
Mais ça, c'est la responsabilité des grands distributeurs quand même.
Oui, et puis je pense qu'il y a aussi une demande derrière. Voilà, il y a une éducation qui n'est pas forcément bien faite aussi. Il faut qu'on se réapproprie la nature. Il faut qu'on regarde ce qui est fait à ce moment-là. Enfin, les grands distributeurs, ils s'adaptent. Ils peuvent le vendre. Ils le vendent d'ailleurs. Si on trouve des fraises au mois de décembre, ils savent très bien que ça va partir. Ah, moi, par exemple, ça me donne pas du tout envie de manger des fraises qui sont d'ailleurs insipides au mois de décembre avec de la chantilly. Ah là, il neige dehors. Non, j'ai envie de...
On mange des oranges.
Voilà. Des oranges ou des pommes de garde. Enfin, voilà. Mais,
question d'éducation, vous le disiez.
Oui.
Il faudrait aller dans les écoles, dire ça.
Oui. Je pense que c'est, il faut traiter tout ça à la source. Et les enfants sont aussi. Moi, je vois ma fille. Elle est très curieuse, très très curieuse. Elle demande. On va dans les magasins. C'est elle qui met ses petits fruits dans les sacs. Donc elle les voit. Et quand je lui dis que c'est pas normal de voir ce genre de produit là, en plus les fraises, elles arrivent sous barquette, sous cellophane, sont suremballées. Elles sont pas été ramassées par le producteur à côté. Non, elles ont arrivé par avion. Donc elle comprend. Et puis une fois on en a acheté, elle les a goûtées, elle a bien vu que elles sont pas sucrées, elles n'ont pas pris le soleil.
Elles sont ramassées quasi pas mûres en fait.
Mais oui, parce qu'il y a tout le trajet de transport qui.
Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école au lieu de formule d'équation du second degré, on devrait apprendre à pas manger des fraises en hiver, non ?
Oui, et puis alors si ça se fait pas à l'école, ça pourrait se faire aussi à la maison, parce que on fait partie aussi d'une génération où on n'avait pas ces produits-là en hiver, on n'avait pas la saisonnalité était un peu plus respectée. Donc on a, enfin, si moi ça me choque, vous ça vous choque aussi de voir ces produits-là.
Ah bah nous on est encore plus vieux que vous.
Ah oui, oui, voilà. On a largement 15 ans de plus. Donc. Mais on a vu arriver le phénomène quand même.
Hein. Ah bah bien sûr.
En parlant des vins, 70 km, il y a du vin d'Arbois, enfin il y a du vin de chez vous, du Jura français j'imagine aussi.
Ouais, ah bah oui, ça, c'est vrai que le Jura est une grande terre vinicole.
Pas forcément reconnue comme telle, hein, notamment ici.
Oui, oui.
Surtout quand on est sur la Riviera.
Ah bah là c'est compliqué de
servi avec le vin.
Ouais non, c'est sûr. Donc oui, je vais rapporter un peu de vin là, j'attends de lancer tout le concept, mais on va mettre du vin jaune ou
oui, alors on connaît le vin jaune, mais il y a plein d'autres choses.
Ah oui, non, il y a le Savagnin, il y a du Poulsard, enfin c'est quand même
Du Poulsard,
ouais, un vin rouge légèrement rosé, délicieux. Ouais, bon, en même temps, je pourrais pas dire le contraire de mon terroir, mais non.
Mais dans la liste des producteurs d'ailleurs que vous mettez sur votre site, il y en a plein des vignerons. Hein.
Oui.
C'est la majorité des producteurs en fait.
Non, il y a une très très belle carte des vins et puis c'est ça. L'avantage c'est que eux viennent livrer eux-mêmes leur vin, donc il y a cette interaction avec eux. Ils nous parlent de leur récolte, comment ça s'annonce. Ils parlent du vin, on fait des dégustations, c'est du plaisir. Et puis pour les équipes, c'est aussi hyper éducatif. On peut mieux vendre un vin en l'ayant goûté, en ayant parlé avec celui qui le cultive, que de recevoir tout ça en carton et de le déballer et puis de le vendre sans même l'avoir goûté ou de connaître, enfin de ne pas connaître le producteur.
C'est vraiment un métier formidable. Je crois que Bastien va quitter son job.
Il faut qu'il reste avec nous. Il a fait un choix. Allez, 16h11, nous sommes avec vous Jérémy Cordier. On va vous retrouver après l'Amo Mali. Il y a du M et du Mali à l'intérieur. Je suis Mali, c'est le titre de la chanson.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays. J'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'Amo Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais j'ai l'âme au Mali et le cœur. Cet infini Sahel, que ta lumière est belle, voyage en solitaire pour toucher ta magie. Noir ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali.
My
Je suis Malice Lamo Malice, 16h15 sur RTS Première, c'est Drôle d'époque, en compagnie du chef Jérémy Cordier, qui a ouvert il y a quelques semaines, deux mois tout juste, Racine Restaurant, si au sein de l'hôtel Bon Rivage, à la Tour de Paix, pas très loin de Montreux, sur les rives lémaniques. Moment clé de votre vie, 20 février 2022, première vraie vacances à Troyes. Oui, quand on disait que la vie de chef est pas facile, donc ouais, ça fait trois ans.
C'est il n'y a pas très longtemps.
Votre femme et votre fille, alors votre fille est née en 2017, vous êtes mariée en 2017 aussi avec votre femme Stéphanie. Première vraie vacances à Troyes, un moment simple, rare et précieux, oui, on l'imagine. Vous voulez le raconter, c'était au Portugal.
Au Portugal, oui. Ma femme est de là-bas, elle est née ici, mais enfin bref, toute une histoire. On est parti donc chez elle, à Espinho, en dessous de Porto, février, donc il faisait froid, il pleuvait, mais je vous assure que ça a fait du bien de prendre l'avion, d'être à Troyes, de ne pas avoir le téléphone qui sonne avec les fournisseurs, bref, j'étais vraiment dans le moment présent avec les deux, et ça a été magique, vraiment magique, donc... Là, normalement, cet été, on va pouvoir repartir, et tant mieux, ça va nous faire du bien. Mais c'est des moments qui sont très très précieux, parce que les semaines passent vite, on se croise, on a des moments, mais qui sont très très limités. Donc voilà, prendre le temps et être vraiment détendu dans un lieu à part, là, ça fait vraiment du bien.
Est-ce que vos deux dames comprennent et acceptent toujours votre passion ?
Ah ben oui, elles le vivent aussi. Elles le vivent parce que je suis toujours, je vis cuisine, je transpire cuisine. Donc elles l'entendent beaucoup.
Mais souvent les couples travaillent ensemble. Hein. On connaît beaucoup de gens où l'homme est chef, la femme en salle, ou parfois à l'inverse, plus rarement il me semble.
Oui.
Vous non.
Moi non. Et c'est ce qui donne aussi l'équilibre, parce que quand je rentre à la maison, j'ai pas cette étiquette chef de cuisine. Je suis le papa, je suis le mari. Et je peux avoir fait le meilleur service de la semaine ou du mois quand j'entre
là, tout le monde s'en fout.
Voilà. Et puis je veux pas me vanter de tout ça, donc moi ça me ramène à l'essentiel et pour moi c'est vraiment vraiment l'équilibre. Ouais.
Vous nous avez confié aussi que la naissance de votre fille a fait changer vos priorités.
Ah oui. Et comme je vous disais, ma femme, elle a eu toute sa grossesse pratiquement toute seule. Alors j'étais là pendant mes jours de repos, mais sinon j'étais dans ma cuisine, justement où je travaillais chez Stéphane Descotter. Et je passais des journées continues, mais des vraies journées continues, pratiquement sans pause. Et puis jusqu'à son terme, et jusqu'au jour où elle a accouché, où j'étais là. Et puis j'ai passé une heure, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, une heure avec Anaïs dans les bras, parce que ma femme était en
Anaïs, c'est donc votre fille, ouais.
Exactement, ouais. Et là, j'ai toutes les larmes qui sont montées, j'ai tout m'est passé par la tête, et je me suis retrouvé face à mes vraies responsabilités. Et puis la priorité n'était pas la cuisine, mais était vraiment maintenant la famille que je suis en train qu'on a construit, quoi. Donc j'ai accroché une médaille sur le dos de ma femme là, enfin, et puis c'est parti maintenant. Dès que j'ai un moment, c'est sûr que je vais les retrouver. Elles passent constamment aussi en cuisine. C'est vrai que on habite juste à côté, donc elles viennent assez facilement en cuisine, et ça me permet de continuer d'avoir cet équilibre là. Ouais.
On a parlé de passion, on a parlé de sacerdoce un peu. Le mot sacrifice, est-ce qu'il résonne à vos oreilles, ou est-ce que c'est beaucoup trop connoté, beaucoup trop fort?
Sacrifice, moi je pense pour une personne de l'extérieur, oui. Être cuisinier, il y a beaucoup de sacrifices. Mais demander à un cuisinier s'il fait des sacrifices, je pense pas, parce que il y a surtout la passion. Et la passion, c'est un métier, enfin c'est un mot très très fort. Sans passion, on n'avance plus. En tout cas, dans ce type de cuisine, on n'avance pas. Parce que il y a plein de contraintes. On finit tard, on fait des journées à rallonge, il fait chaud, il y a le coup de pression du service. Bref, il y a beaucoup de choses négatives. Mais s'il n'y a pas cette passion, on voit tous ces points négatifs prennent le dessus. Et là, oui, on peut parler de sacrifice. On pense à ce qu'on loupe, on pense à nos amis qui sont en week-end et pas nous. On pense à notre famille qui part en vacances et pas nous. Voilà,
la vie sociale, elle en prend un coup, puisque vous êtes pris jusqu'à 22h30.
Ah bah oui, on reste entre cuisiniers, en fait. Ouais.
Dimanche et lundi, quoi.
Ouais, exactement, ouais.
On n'est jamais à 99% quand on est cuisinier, on est toujours à 100 au minimum.
Oui, alors après, ça arrive, on reste des humains, il y a toujours des hauts et des bas, mais il faut être concentré sur ce qu'on fait, il faut aller jusqu'au bout, il faut... Voilà, c'est pour ça qu'on fait souvent la comparaison entre la cuisine et puis même l'armée, où il y a cette rigueur, cette exigence qui est là.
Je préfère la cuisine, moi.
Ouais.
Ben on dit une brigade.
Oui, on dit pas exactement, ouais. Ouais, brigade aussi est utilisée dans la cuisine, mais... Voilà, il faut toujours être là, concentré, organisé pour pouvoir être prêt pour ce fameux service. Parce que derrière, bah, deux fois par jour, on a quand même entre 40 et 50 clients qui rentrent dans le restaurant. Et puis eux, bah, ils s'en foutent un petit peu si, voilà, vous avez crevé en arrivant ou s'il pleut et puis, bah, vous avez pas reçu votre salade. Enfin, bref, voilà, lui, il veut manger. Voilà, il vient pour passer un moment et découvrir la carte.
Quand vous disiez faut pas se louper, ça veut dire quoi se louper pour vous, la barre est à quel niveau, quel est le critère pour que vous disiez ouais, ça on l'a un peu raté. C'est une sauce qui est pas tout à fait réussie, c'est une cuisson qui est pas tout à fait réussie, c'est un accord qui est pas tout à fait réussi, c'est quoi vos critères?
Alors oui, bah il y a plusieurs choses, hein. C'est notamment tout ce que vous venez de dire, c'est l'assaisonnement qui est quand même assez hyper important. Nous, on met pas de sel et poivre sur table, donc quand les assiettes partent, il faut qu'elles correspondent quand même à la majorité des clients. On peut envoyer une assiette, par exemple, il y a une cuisson qui est mal réglée, et puis là, on réagit tout de suite.
On peut rattraper le coup en cuisine encore avant de servir?
Oui, non, il faut.
Ou est-ce qu'il y a des choses irrattrapables une fois qu'elles sont cuisinées? Oui, là, elle est trop cuite.
Le client, il est reparti pour 25 ou 30 minutes d'attente.
Mais il y a des choses qui sont rattrapables.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a toujours deux. Nous, on fonctionne. Il y a les cuisiniers qui préparent vraiment au fourneau, et moi, je suis au pass et je regarde un peu comment. Enfin, je regarde et je finis les assiettes en termes de dressage, en termes d'assaisonnement. Et l'assiette, une fois que je la remets au serveur, pour moi, elle est prête à partir.
Avant de goûter, on sait qu'un plat ou quelque chose est loupé, quoi, à l'apparence, à l'odeur?
Oui, à la couleur. Et puis avant de louper un plat, il y a quand même tout un processus de... On goûte constamment quand on prépare toute la matinée ou alors le soir. On est toujours en train de goûter avec la petite cuillère. Pour éviter ce genre de drame.
Goûter tous les éléments du plat, la sauce. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans un plat? Est-ce que c'est la cuisson, le produit, le dressage?
Non, mais très bonne question. Moi, je pense que c'est le produit. Moi, j'adore sublimer le produit. La sauce, je suis pas un grand saucier. Moi, je préfère les sauces d'instinct. Donc, je rajoute toujours des petites herbes, des sauces vierges, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites crudités aromatisées avec une huile. Mais les sauces à rallonge, ouais, j'en ai fait beaucoup.
Le lièvre à la royale, c'est pas votre truc?
J'aime le faire, mais c'est pas ce que je mettrais à la carte.
Non, on mange encore du lièvre en 2023.
Ah, Émilie Gasque est entrée.
C'est quoi ça? D'où on a des lièvres encore?
C'est avec de la moutarde, non? C'est ça? Non.
Oh, c'est une sauce très compliquée, mais j'en ai
jamais. C'est quoi le lièvre à la royale?
Enfin, il y a tout un processus.
C'est un truc qui date des rois de France.
Ouais. Ah oui, ça fait moins envie que ce que vous nous racontez depuis le début de l'émission. Ah oui, non, pas forcément. Donc c'est le produit qui compte avant tout pour vous. Oui. Comme on l'a entendu, Émilie Gasque vient de faire son apparition.
Émilie a une question et tout le monde y répond.
Et tout le monde y répond.
16h23, salut Émilie.
Oui, salut tout le monde. Et ben justement, d'où est-ce qu'ils viennent ces aliments que vous mettez dans l'assiette, ce produit en question? C'est ce que j'ai demandé à celles et ceux que j'ai croisés.
D'un peu partout.
Est-ce que vous faites attention à ça ou...
Oui, quand même.
Avec quel souci? Vous regardez quoi?
En principe, les étiquettes. Dans les magasins, dans les restaurants, on ne boit pas.
J'avoue que je ne fais pas forcément attention pour les légumes, mais pour la viande, oui.
Parce que?
Je sais pas, je regarde la provenance toujours, mais sur la viande, mais pas sur les légumes forcément. Puis ouais, je sais pas, certains légumes à l'étranger me plaisent plus que ceux en Suisse.
Et vous regardez si c'est de Suisse, si c'est d'ailleurs, si c'est biologique?
Oui, mais bon, il faut pas trop se leurrer non plus, hein.
Moi, j'essaie de faire attention à ce que les produits soient le plus locaux possible. Par contre, quand j'ai envie de manger par exemple du guacamole, je vais prendre les avocats qui peuvent venir du Pérou ou d'Afrique du Sud, par exemple.
Vous êtes OK de les prendre?
Oui, ceux-là, oui. C'est de manière exceptionnelle.
C'est pas guacamole tous les jours, quoi.
Non.
J'essaye de manger un peu local, plutôt des aliments suisses si possible. Alors on essaie d'aller dans des magasins, épiceries, magasins locaux, sinon on regarde les étiquettes en grande surface.
Mais bon, il faut pas trop se leurrer non plus, hein.
Est-ce du chocolat français ou suisse?
Allemand, me semble-t-il.
Ah bon?
D'où viennent les aliments que vous mangez?
De la terre, si possible biologique.
Et elle est où cette terre bio ?
Partout où on veut bien la placer et la faire revivre. Local, espagnol, dans tous les pays, on peut trouver de la terre bio.
Donc bio avant tout ?
Oui, y compris dans les vignes du Lavo.
Alors, les œufs, je fais quand même gaffe à qu'ils soient bio. Donc, c'est. En vrai, genre, je choisis toujours du bio au cas où pour l'environnement. C'est un peu le seul truc que je fais pour l'environnement.
Ah non, c'est pas assez.
Bah oui, c'est pas assez.
Mais bon, il faut pas trop se leurrer non plus. Hein.
Des pays sont suisses ou étrangers, ça dépend ce que c'est comme aliment, mais. Mais j'essaie quand même de manger ce qui est de saison et pas acheter n'importe quoi hors saison.
Et alors, ils viennent d'où ?
Pas toujours de Suisse.
Oui, je suis attentif, effectivement. Que ce soit sur la provenance, que ce soit les additifs, que ce soit si possible du bio. Mais le bio, avant on pouvait choisir entre le bio et le pas bio. Le pas bio était moins cher, mais maintenant il n'y a que du bio et c'est beaucoup plus cher pour le porte-monnaie.
C'est trop cher.
Même pour Noël, c'est trop cher.
D'où viennent les aliments que vous mangez ?
Du supermarché.
Est-ce que vous y faites attention ? Est-ce que vous regardez leurs origines, etc. ?
Non, pas du tout. Mais mon mari, oui. Parce que tenant un café, il est obligé. Et puis, il tient beaucoup à acheter des produits locaux quand même. Éviter l'étranger. Mais on ne peut pas y échapper. Hein.
D'où viennent les aliments que vous mangez ?
Alors, je choisis beaucoup d'aliments de chez nous. Je viens au petit marché et c'est tous des produits du coin. C'est une ferme qui n'est pas loin d'ici, où ils font des produits bio. Il y a aussi une marchande de fromage qui vient du canton de Fribourg, des viandes du Jorat. Et je suis pour qu'on fasse vivre aussi notre terroir.
D'où viennent les aliments que vous mangez ?
Des jardins du Flon.
Ah, donc tout proche.
Ouais, voilà. Ouais, j'essaye d'être locavore prioritairement. Ouais.
De la COP. Avec mes bras, au fait, j'essaye de les ouvrir, les écarter le maximum pour attraper le maximum de nourriture.
T'exagères quand même.
D'un peu partout dans le monde, depuis la mondialisation. De partout sauf d'Israël, parce que je boycotte.
Principalement d'Europe. En général, je fais attention, ou j'aime bien sélectionner les choses qui viennent de pas trop loin. C'est pas possible pour l'ensemble, mais principalement d'Europe.
C'est déjà pas mal loin l'Europe, hein.
Ouais, bien sûr. Après, il y a toujours un équilibre entre ce qu'il faudrait faire, ce qu'il conviendrait de faire et ce dont j'ai envie. Donc, la limite, j'essaie de la mettre par là.
Mais bon, il faut pas trop se leurrer non plus. Hein.
D'où viennent les aliments que vous mangez ?
D'un peu partout, moi, je pense. On essaye de, en tout cas, le frais d'acheter, ce qui est régional.
Principalement de la région, chaque fois que je peux. Et puis, d'Europe en général.
Mais bon, il faut pas trop se leurrer non plus. Hein.
Fromage, fruits et légumes, oui, ils viennent de... elle prend où en bas et Verdon, je crois, les salades, tout ça. Ouais, fromage, viande, on prend beaucoup dans les boucheries d'ici. Voilà.
Ouais, moi, j'ai tellement faim, je boufferais n'importe quoi.
Bon, on n'est pas là pour distribuer des notes, mais force est de constater, chère Émilie, que ces gens-là sont plutôt conscients du problème.
Oui, en tout cas, tout le monde sait qu'on achète beaucoup de produits qui viennent d'Europe, qui viennent du monde entier.
Vous n'avez vraiment trouvé que des comme ça. C'est vraiment la photographie, quoi.
Ah, puis il y a de la variété, hein, en termes d'âge, d'origine, milieu. Ouais. Vraiment. J'ai été très étonnée sur un jeune qui dit « Moi, j'essaye de manger bio parce que c'est le seul truc que je fais. » Tout le reste.
Mais je me suis interrogée sur cette notion de bio, parce qu'on dit souvent que bio, c'est pas forcément écolo. On peut avoir des tomates bio qui viennent de l'autre bout du monde.
Ah oui, complètement, oui.
Relayons cette question, effectivement. Je l'avais noté au bas de ma feuille, le bio, ouais. Vous avez raison, parce que c'est pas forcément écolo. Un, mais deux, est-ce que vous, la notion de bio, Jérémy Cordier, fait du sens à vos yeux et à votre âme? Quand vous sélectionnez un produit dans ce rayon de 70 km, est-ce qu'il faut qu'il soit bio? Et partant, qu'est-ce que ça veut dire bio?
Non, alors moi c'est pas du tout un critère de sélection, surtout que le bio, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui cultivent en bio parce qu'il y a beaucoup beaucoup de critères à respecter, mais ça reste des produits qui sont assez coûteux, donc pour un usage personnel, oui, de temps en temps, mais pour une cuisine, c'est compliqué.
Donc les pesticides, c'est à votre table?
Pesticides. Alors, il y a quand même une réglementation qui est là. Et puis, je sélectionne les producteurs. Hein, je prends pas des producteurs qui font pousser sous serre une multitude de légumes. Mais par exemple, on travaille avec les maraîchers qui s'appellent Prabonjour au-dessus de Vevey, qui n'ont pas le label bio, mais qui sont bio. Voilà, il y a une démarche.
Ils ont une pratique, en tout cas, qui est attentive, etc.
C'est ça. Il faut, c'est un fourre-tout
raisonnable, quoi.
C'est un fourre-tout, le label bio, pour vous?
Non, c'est aussi un côté marketing, mais il y a quand même toute une démarche derrière. Hein. Si on prend des produits bio, il y a quand même beaucoup de contraintes. Ils perdent beaucoup de récoltes. Les vins bio, par exemple. Chapeau, hein, pour tenir tes récoltes avec des raisins sans pesticides, qu'ils les traitent. Enfin, non, franchement, les vins bio sont délicieux, ils sont plus chers, mais derrière, il faut regarder le travail que ça nécessitait. Donc, non, le bio, je sélectionne les fournisseurs, je fais attention, mais non, c'est vraiment pas un critère. Ouais.
Il y en a qui font du bio et qui le crient pas sur les toits au point d'avoir le label et d'en faire leur marketing. C'est ça que vous nous dites.
Oui, complètement. Et puis après, vous dites, bio n'est pas forcément écolo. Hein, on retrouve le monsieur parlait d'avocats. Il y a des avocats bio qui viennent Costa Rica, du Pérou, n'importe. Mais voilà, le label bio qu'on a ici n'est pas du tout le même qu'on a là-bas. Donc
ça veut presque plus rien dire à la fin.
Et oui, c'est
ça. En plus,
il y a
des jolies petites étiquettes en plastique.
Voilà, en plus, c'est juste ça. Ouais. Ah, vous avez raison. Et toutes ces histoires de Nutri-Score, enfin, il y a une polémique en France, là. Est-ce que vous suivez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose d'important, ces scores décernés sur les aliments et les produits qu'on achète, Jérémy Cordier?
Oh bah oui, là par contre ça vaut le coup de s'y pencher parce que et puis on voit.
Je crois que le gruyère avait été très très mal classé. Hein.
C'est quoi? En plus, je serais réexpliqué ce que c'est ce Nutri-Score. Vous me l'aviez déjà expliqué, Simon.
Mais... Ah non, mais attendez, vous me renvoyez la balle. C'est la valeur nutritive et le côté sain ou pas d'un produit
en termes d'apport calorique, de bienfaits sur la santé. Donc
oui, c'est ça. Je crois que justement le gruyère avait été mal noté hein, à l'époque.
Oui, oui.
Ouais.
Oui.
Mais ça vaut quand même la peine pour vous.
Oui, je pense. Il faut se pencher dessus parce que c'est vrai que pour ce que ça nous apporte, on prend une tomate qui est sous serre, qui a jamais vu le soleil, et une vraie tomate qui vient de chez nous, Canton de Vaud, qui s'est nourrie du soleil et de l'eau qu'on a ramassée à la main. Là, c'est pas pareil. Elle a quand même beaucoup plus de nutriments, elle a des vitamines, elle a des fibres, alors que l'autre tomate,
c'est de la flotte.
On la fait tomber par terre, elle nous retombe dessus. Enfin, elle rebondit.
Elle rebondit.
Voilà.
Et puis, c'est pas le même goût.
Et c'est pas du tout le même
ni
goût.
Ni la même odeur.
Non.
Sauf qu'elle est jolie, elle est ronde, comme ça.
Ouais,
et l'autre, elle sera peut-être un peu bognée, enfin, éborgnée. Voilà.
Mais pour le coup, Nutri-Score, elles ont toutes les deux A.
Alors.
Ah oui.
Mais
une tomate
reste une tomate. Mais la valeur nutritionnelle, ça reste quand même hyper important. Voilà. Et c'est marrant parce que il y a une étude qui avait été faite, je sais plus par qui, mais ils prenaient, alors si on reste sur la tomate, ils prennent la tomate d'il y a 100 ans et une tomate d'aujourd'hui, et comparent les deux valeurs nutritionnelles, mais c'est incroyable. Incroyable. Il faudrait manger l'équivalent de 30 tomates pour retrouver les valeurs nutritionnelles d'une tomate il y a 20-30 ans.
C'était mieux avant, là, pour le coup.
Ah, bah, complètement, ouais. Puis on était moins pollués, enfin, voilà.
Sauf erreur, j'ai oublié le nom de l'organisme, qui a un nom latin, pro specie rara, ou je sais plus quoi, quelque chose comme ça, et qui s'attelle à faire
revivre
ses anciennes graines, voilà. Chercher le terme, je suis tellement pas spécialiste. Mais on peut retrouver les tomates d'il y a 100 ans, non?
Oui, on peut, mais après, le terrain a changé.
C'est la terre. Oui, évidemment.
Ah oui, la terre a...
Le climat.
Le climat, enfin, il y a tout un écosystème qui a été pollué, sali, en quelque sorte.
C'est désespérant, ça. Donc même si on retrouve la graine d'il y a 100 ans, de toute façon, l'humus, enfin la terre, ne sera jamais aussi bonne qu'à l'époque.
Voilà, il faudrait retrouver vraiment les mêmes...
La terre de l'époque.
Exactement, oui.
Oui, alors ça, évidemment, il y a loin de la tomate aux lèvres. You know, I'm no good. C'est pas moi qui le dis, c'est Amy Winehouse.
Aussi, hein.
Mais moi aussi, je pourrais le dire.
Me out like I was tankering.
You know I'm no good, Amy Winehouse. Ben lui, il est très très bon. Il est très très bon. Il est chef au restaurant Racine dans l'hôtel Bon Rivage à la Tour de Paix. Puis il est très bon en radio aussi. C'est sa première radio. C'est vrai ça, Jérémy Cordier. Vous, aujourd'hui, vous faites votre première radio.
Ah, c'est une grande première pour moi, oui, effectivement.
Vous aviez le trac un peu?
Oui, oui, oui. J'ai beaucoup appréhendé ce passage, mais vous m'avez mis à l'aise et c'est bien agréable. Je passe un très bon
salut
moment.
Salut votre fille qui doit être fière de vous à l'autre bout, avec son papy.
Avec le papy. Et avant un service, est-ce que vous avez le trac parfois, ou peut-être avant chaque service, en disant ah là, faut pas qu'on se loupe.
Non, non, non. Après, c'est une constante. Donc non, c'est pas du trac, c'est pas de la pression, c'est pas un stress.
Pas de pression.
Non, pas de pression, surtout pas. Non, non, j'ai été tellement marqué par ces services stressants, où il y avait la violence verbale gratuite, physique même.
Moi, physique.
Pas du tout. Je veux pas du tout reproduire ça. Et j'ai pas envie de retransmettre ça à mes équipes.
Physique, ça veut dire que vous avez vu des coups en cuisine.
Ah oui, 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 oui.
Vous avez reçu des coups?
Ah, j'ai reçu des coups. On m'a brûlé d'ailleurs. Moi, je suis caché sous les tatouages, mais c'est...
On vous a brûlé?
Oui.
Non, mais, un chef, vous a brûlé sciemment?
Non, journée de départ de Georges Blanc. Donc, il y avait toujours des petits bizutages de départ.
Ah oui.
Et puis là, ils ont fait chauffer un moule à cannelés à 300 degrés pendant tout le service.
C'est comme un moule à gaufre, à peu près?
Ouais, voilà. C'est un petit moule en cuivre. Hein, donc, ouais. À 300 degrés, il était bien, bien rouge, ils m'ont tenu et paf, sur le bras.
Bizutage.
Un bizutage de départ et j'ai toujours la marque du cannelé sur le bras.
Donc ils vous ont pas demandé votre avis en fait.
Ah non, 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 ils étaient à plusieurs parce que j'avais pas envie de me faire voler, donc ils étaient à plusieurs pour me tenir. Et...
Mais pourquoi vous? Parce que
je partais pour avoir la marque de fabrique. Et
voilà. Mais ça se passe comme ça avec tous ceux qui partent?
Ça se passait comme ça. Alors c'était pas des brûlures. Des fois c'était, il y avait une mare. Alors on jetait des personnes dans la mare. Ça restait à peu près bon enfant. Mais là, le coup de la brûlure, non, c'était.
Georges Blanc. On a parlé de Stéphane Descotter. On a aussi entendu la voix de Georges Blanc tout à l'heure. Il vous a formé. Il a 82 ans maintenant. Il a perdu sa troisième étoile, oui. il y a quelques temps, après 44 ans,
oui.
Ça a été largement médiatisé, cette affaire. D'ailleurs, il a été interviewé juste après en disant, je vais me remettre au travail pour essayer de la regagner. Comment vous avez vécu la perte de son étoile à lui, 3 étoiles pendant 44 ans et à 82 ans, il la perd. Je ne sais pas si vous êtes encore en contact. Comment vous avez pris ça?
Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour le personnage et pour ce qu'il a apporté dans la gastronomie française et même internationale. Sa cuisine, elle est incroyable, elle est juste, elle est parfaite. Mais, et ça reste mon avis, hein, oui, je pense que ça fait du bien de voir ces grands personnages pouvoir se remettre en question. Et derrière, il y a quand même toute une génération qui est là et qui fait des choses, qui font des choses magnifiques, qui méritent aussi 3 étoiles, qui méritent 2 étoiles.
Donc, comme vous, quoi.
oui, peut-être un jour.
Bah, vous faites partie de cette génération qui suit.
Oui,
ce que vous voulez dire, c'est que la roue tourne, quoi.
Exactement. Voilà. Il y a, hormis le fait qu'il fait partie du paysage gastronomique, aller là-bas, c'est quand même un coût. Il faut.
C'est très cher.
Ouais, voilà.
Bah, pour le coup, c'est très cher.
Quand on compare avec d'autres restaurants, il y a quand même une génération, comme je disais, qui est là et qui mérite aussi d'évoluer, d'être mis en valeur, d'être mis en lumière. Et puis, pour moi, le guide Michelin le fait très très bien. Ouais. Alors, oui, ça fait polémique, mais derrière, ça fait aussi du bien sur la scène gastronomique.
C'est juste ce système des étoiles et des notes. Michelin, c'est des étoiles. Gomio, c'est des notes. C'est juste.
Alors c'est juste, oui, moi je le vis, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est des récompenses entre guillemets. Donc se lever le matin et de se dire, tiens, je veux une étoile Michelin et je le fais transmettre à toute mon équipe, on veut une étoile Michelin, on veut une étoile Michelin.
Ça c'est de la pression.
C'est de la pression et puis au final, est-ce qu'on prend vraiment du plaisir à travailler? Je pense pas. En tout cas, ça reste mon point de vue. Moi, je fais la cuisine que j'aime, tout simplement. Si le Michelin passe et qu'il me décerne une étoile verte ou même un macaron Michelin, bah tant mieux, j'en serais ravi. Mais c'est pas l'objectif, voilà. Et pour le Goemio, bah c'est pareil. C'est mon identité, c'est la cuisine que j'aime faire. Donc si elle est récompensée par un 15 sur 20, un 16 sur 20, tant mieux. J'en serais vraiment vraiment content. Mais après,
c'est pas pour ça qu'on cuisine, c'est même contre-productif peut-être.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Je peux pas garder ça en ligne de mire et de me dire, tiens, il faut qu'on y arrive. Et puis si malheureusement, le jour J, le guide sort et puis il n'y a pas d'étoile ou alors il y a un 13 sur 20, bah, ça va être le désastre absolu. Donc non, je préfère continuer, tracer ma route et puis ça viendra ou pas. Hein, mais voilà, donc faire ce que j'aime.
C'est vraiment la nouvelle génération. On les repère facilement, les inspecteurs ou les inspectrices des guides, vous en avez...
C'est pas Louis de Funès, son carnet.
Non, et je pense que si c'était le cas, ça se saurait. Mais puis ils sont assez intelligents pour se renouveler, je pense, d'année en année. Donc non, en tout cas, moi, j'ai pas eu de tilt, de personnes qui m'ont paru suspectes jusqu'à maintenant.
Donc c'est pas toujours les mêmes, parce qu'il y a aussi cette idée que dans le grand public que finalement ils se connaissent tous, puis ils savent très bien qui c'est.
Oh non, ça reste des clients mystères et qui, une fois qu'il y a une table qui les interpelle, reviennent plusieurs fois. Alors ils viennent des fois sur 2 tables séparées pour voir si chacun est servi de la même manière, ou alors ils font tomber quelque chose par terre pour voir si la personne en salle. Il y a des petits trucs qui puissent mettre la puce à l'oreille, mais bon, voilà. Après si on s'attarde à ça, mais bon, après voilà, on reste professionnel pour tout le monde.
Donc si vous voulez être super bien traité, vous venez tout seul et vous venez plusieurs fois.
C'est vous mettez un carnet sur la table.
Bon, après cette émission, vous allez avoir la visite de plein d'inspecteurs. On va écouter une séquence hebdomadaire. Tous les lundis, c'est le poids des mots, le best-of des invités de la semaine précédente, Jérémy Cordier. Et puis après, on peut réagir ou pas. Nous étions avec Martial Courtais, conseiller d'État jurassien du parti Le Centre, qui vit quelques moments difficiles. Lisa Mazone, la présidente des Verts et des Vertes Suisses. Loubna Frey, qui est, ma foi, aventurière et militante des droits humains. Et Alain Humeroz, photographe.
Le poids des mots.
J'ai toujours observé que dans les moments difficiles, c'est quand même là qu'on apprend. C'est pas tellement en étant sur son canapé, devant sa télé, qu'on avance vraiment dans la vie. Donc je pense dans ces moments, sincèrement, je crois que tous les moments difficiles que j'ai dû traverser, comme tout un chacun, on en sort quand même grandi, en espérant en tout cas en apprendre quelque chose. Donc dans ce sens-là, je me dis que je vais apprendre aussi quelque chose à travers ça. Puis après, j'ai bizarrement, je pense que je suis plutôt quelqu'un d'actif, voire même, dit-on, d'hyperactif. Je comprends que ça aussi, ça puisse un peu bousculer. Puis
peut-être
du coup,
ce qu'on vous reproche d'ailleurs. Hein.
Sûrement en partie aussi, mais apparemment plus que ça. Mais toujours est-il que ce côté hyperactif, je dirais, fait quand même en sorte que je trouve cette période aussi intéressante. Alors, dans l'absolu, je disais, je m'en passerai, mais en même temps,
il se passe quelque chose.
Ouais. C'est vrai, il se passe quelque chose. J'apprends un peu comment ça fonctionne. J'essaie de durcir un petit peu la carapace aussi et d'en tirer quelques leçons.
Il y a une forme de proximité qui s'est établie avec ce gouvernement d'extrême droite israélien qui est extrêmement problématique.
Proximité, vous iriez même jusqu'à dire entre Ignacio Cassis et le gouvernement israélien ?
Non, ce que j'aimerais dire plutôt, c'est qu'il y a une forme de... Alors, au niveau de la politique étrangère suisse, il y a une forme de recul et de désengagement et de sentiment que la Suisse fait plus partie du monde et que la Suisse va juste de façon un peu opportuniste regarder ce qui se passe. Mais oui, je veux dire, quand la Suisse s'abstient à l'Assemblée des Nations Unies sur la reconnaissance de l'État de Palestine, alors que un grand nombre d'autres États soutient cette proposition, ça questionne fondamentalement, ça questionne. Et il y a une urgence, et je pense qu'on est vraiment des milliers de personnes en Suisse à ne pas supporter cette situation, à un besoin d'action, et de messages clairs et de dénonciations claires des crimes qui sont commis sur place.
Benjamin Netanyahou, donc lui, il y a un mandat d'arrêt contre sa personne et aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Gallant, de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ben, ils ont comme Poutine, comme beaucoup de ses dirigeants, le monde devient plus petit. Ils ne peuvent plus voyager comme ils aimeraient. Ils n'ont pas la liberté que nous avons pour les crimes qu'ils ont commis. Et donc, s'ils sont dans un pays qui est membre de la Cour pénale internationale, il y en a beaucoup, ils doivent normalement se faire arrêter.
Mais ils ne se feront jamais arrêter.
Je ne crois pas que vous et moi savez ça. On ne le sait pas. Aujourd'hui, non.
Ils s'arrangent pour ne pas y aller.
Voilà. Poutine ne va pas au rendez-vous des BRICS, par exemple. Enfin,
c'est assez simple. Pourtant, on sait très bien où ils sont.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas donner place au cynisme. C'est déjà incroyable que de notre temps, on ait ces noms-là qui soient attribués à des crimes commis et qu'on puisse en parler comme ça.
Ça réveille des peurs animales, en fait. On est au-delà de la raison. Tout à coup, et surtout actuellement, enfin depuis un moment, on vit dans un monde qui est quand même corseté, endigué, prévisible. Et tout à coup, non, ça l'est plus. Heureusement, c'est catastrophe. C'est une catastrophe, mais c'est pas très loin de ce qui se passe dans l'autre sens, dans le sens de l'émerveillement. C'est pas très loin de ce qui se passe quand on tombe amoureux. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec quelque chose qui n'était pas prévisible. Et ça change la vie. Quand c'est une catastrophe naturelle, évidemment, ça change la vie. Mais que ce soit Blatten ou si je reviens avec Lothar, il faut pas oublier que le vrai ordre de la nature, c'est cette violence-là. Nos forêts si bien aménagées, nos pas, c'est l'ordre auquel on croit quand on regarde la nature, c'est pas ça. La nature est d'une extrême violence. Regardez un tigre bouffer une antilope, hein, je veux dire, c'est ou une araignée, une mouche, c'est terriblement violent. Et les forêts et la montagne, ça bouge. Donc j'aime bien cette fragilité là, parce que on oublie dans notre belle société fantastique, on oublie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on oublie notre fragilité, comme on oublie la mort d'ailleurs. Hein. La mort est occultée, comme si ça n'existait pas ou comme ça voulait pas exister. Mais non, c'est là.
Mmh. Le poids des mots, séquence réalisée par Mathias Bruniman. Nous étions avec Martial Courtet, Lisa Mazone, Loubna Frey et Alain Numerose. Jérémy Cordier, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, l'un ou l'autre de ces propos?
Bon, alors, pas m'attarder, mais je suis l'actualité comme tout le monde.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez le temps ou le désir d'écouter les news, de suivre l'actualité?
Oui, le soir, j'aime bien regarder le journal, enfin sur le téléphone, l'actualité pour me tenir quand même informé. Et puis, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est quand même assez important. Il y a un contexte qui est compliqué et c'est marrant parce qu'on parlait encore ce matin de l'effondrement là avec un copain, cette avalanche à Blaton.
Blaton, oui, cet éboulement, oui.
Dire que ça arrive à cette période, j'entendais hier sur les ondes que avant ça se passait tous les 20 ans, maintenant ça se passe tous les 2 ans. Ouais, c'est quelque chose dont on doit s'habituer, malheureusement, et ça fait peur, ça fait peur.
C'est quelque chose qui est aussi lié à votre activité, à cette idée qu'il faut consommer local, ouais. À votre préoccupation pour le climat, on imagine.
Ouais, complètement, oui. Ouais, ouais, mais tout est lié. Et puis, bon, après, le contexte géopolitique, comme on entendait madame, ça, voilà, c'est aussi très, très compliqué. Donc, voilà, malheureusement, à des kilomètres de chez nous, il y a des familles qui sont décimées, il y a une famine, enfin il y a plein de choses atroces qui se passent. Donc ça permet aussi de relativiser puis de dire qu'on est quand même assez bien là où on est. Et voilà.
Bon, la question du boycott de produits de tel ou tel pays, Israël ou autre, se pose pas chez vous parce que le rayon c'est 70 kilomètres. Donc, donc là, l'affaire est réglée. Mais peut-être rebondir sur ce qu'on entendait de la part du conseiller d'État jurassien, Martial Courtet, qui fait face à de graves accusations. Un audit va commencer sur son travail dans son département. Il le disait, c'est une période intéressante, on en apprend plus dans les moments très très difficiles, quand on doit affronter des tempêtes, on en sort grandi. Voilà, peut-être que vous en avez vécu et peut-être êtes-vous d'accord avec lui.
Ah oui, complètement, oui. Puis ça fait partie de la force de caractère. Hein. Quelqu'un qui ne se remet pas en question, malheureusement, n'avancera pas. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Dans les périodes difficiles, il faut réagir, il faut comprendre ce qui ne va pas et changer, tout simplement, être à l'écoute.
Vous l'avez fait très bien en recouvrant de tatouages cette brûlure qu'on vous a faite quand vous avez quitté les cuisines de
Jean-Paul. Ah oui, ouais, ouais, je voulais plus la voir cette...
Transformer cette brûlure en quelque chose de beau.
Oui, ouais, ouais, complètement, oui. Ah ouais. Non, ça...
Et quand un client n'est pas satisfait, bon, on imagine que ça doit être très rare chez vous, mais ça doit arriver aussi quand quelqu'un demande à voir le chef ou quand un client fait un peu la moue, vous...
Bah, on brûle ou...
Vous gardez votre calme, virgule, comment?
Le calme, parce que ça sert à rien de s'énerver, c'est surtout l'écouter et puis comprendre ce qui ne va pas. Alors des fois c'est justifié ou des fois c'est juste que la personne ne se trouve pas au bon endroit et puis veut absolument
du homard avec du gingembre.
Voilà, exactement. Donc là malheureusement on pourra rien faire pour elle et puis on l'invitera à aller ailleurs la prochaine fois. Mais à partir du moment où la clientèle est là, les retours sont quand même assez intéressants à comprendre et ça fait partie aussi des remises en question. Voilà, il faut être à l'écoute. On peut faire des erreurs, hein, un minimum, mais les retours doivent nous servir de leçon et puis ça reste des remarques constructives. Voilà. Mmh.
Je voulais revenir sur ce que disait Alain Numerose dans ce poids des mots où il parle de nature qui est violente. Il dit regardez un tigre qui bouffe une gazelle, une araignée qui mange une mouche. Vous travaillez avec la nature.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Cordier?
Non, alors moi c'est quand même une approche différente parce qu'on travaille, de la viande, on travaille du poisson. Les poissons, on les reçoit, on doit les travailler, les vider. Donc on a toujours avec du respect, mais on a cette proximité avec les produits et l'animal qui est différent que les autres particuliers. Moi, ma femme, par exemple, vous lui ferez jamais lever un poisson, vider un poisson.
Il y a le côté sauvage quand même, hein,
oui.
Pour enlever les viscères. Enfin, il y a tout.
Ah oui, 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 oui. Et puis voilà, il faut. On respecte beaucoup la chasse. Moi, j'irai jamais chasser, par exemple. Je ne pourrais pas tirer sur un animal.
Mais vous servez de la chasse.
Mais je sers de la chasse. Voilà. Donc
chacun son job.
La limite, ouais, elle est là. J'aime manger de la chasse, j'aime la cuisiner, mais aller tirer un cerf ou un chamois, non, je poserai le fusil.
On vous comprend. Alors, ce midi, c'était des cordons bleus pour votre fille. Ce soir, qu'est-ce qu'on va manger chez les Cordiers?
Alors la bonne question, je vais filer en course après. Donc...
vous savez pas.
C'est vous qui cuisinez aussi?
Oui, oui, oui.
Votre épouse, elle cuisine de temps en temps?
Elle cuisine quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, c'est moi qui passe en cuisine, ouais.
Et demain, au restaurant Racine, alors quel est le menu ?
Alors, au menu, ben, on va retrouver toute notre carte Ligo, là, avec un assortiment. D'ailleurs, on change une partie de la carte cette fin de semaine, avec plein de nouveaux produits. Et puis, toujours cette approche gastronomique le soir, voilà, en 5 ou 7 étapes, avec une terrasse magnifique et une belle racine dans le restaurant.
On se surprend. Ah oui, il paraît qu'il y a un immense tronc dans votre restaurant avec les racines.
Ah oui, magnifique. Là, on a fait la rencontre d'un bûcheron qui a déraciné un arbre qui allait tomber sur une maison. Il n'a pas déraciné pour nous. Et il l'a mise en plein milieu du restaurant. Ah. Un gros boulot de 8 en temps, magnifique.
La racine, c'est pas qu'un titre et une enseigne, c'est aussi un vrai tronc. Ouais. Ça se passe à l'hôtel Bon Rivage, c'est à la Tour de Paix. Faut réserver combien de temps à l'avance ?
Ah, pour le moment, vous pouvez réserver un jour à l'avance. Ça va très bien.
Ouais. Bon, ben, auditrice, auditeur, le mot est passé. Merci Jérémy Cordier.
Ben, merci à vous pour votre accueil. Merci de m'avoir écouté.
C'était un plaisir. On se quitte avec Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.
Parfait pour aller faire les courses.
Oui.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around an inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch your parking meters. Short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
Bob Dylan en 1965, merci à Bastien Testori qui était derrière la vitre et qui réalisait cette émission. Mélanie, on se retrouve demain, 15h.
Oui, nous serons en compagnie de Cécile Amarel. Vous savez, elle a été notamment ministre ici au Canton de Vaud, puis là, elle travaille comme prof de droit à l'Université de Neuchâtel.
Elle a retrouvé son ancien métier.
Oui, c'est ça.
Elle était déjà prof de droit avant d'être conseillère d'État. Une législature au sein de l'école vaudoise, on aura plein de questions à lui poser. Ça, c'est pour demain, dans un instant, c'est Vertigo. Et puis là, c'est la route.
Infotrafic RTS.
De forts ralentissements sont constatés sur les tronçons suivants, sur le contournement de Genève entre Mérin et le tunnel de Vernier, ainsi qu'entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardonnay en direction de la France, dans les montagnes neuchâteloises entre le Cré du Locle et le Col des Roches en direction de Morteau. Et pour consulter l'inforoute en tout temps et en temps réel, le site rts.ch/trafic est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
C'est le chef cuistot de Vertigo qui est avec nous, Pierre-Philippe Cadère.
Il est au fourneau, il a son tablier.
C'est vrai. On voit mon beau tablier blanc.
Oui.
Il est encore blanc, mais pour peu de temps, bien sûr, parce qu'on va bientôt commencer à cuisiner. Dans cette émission, nous allons évoquer le festival des Athénéennes avec nos deux invités, Audrey Vigoureux, Dimitri Soudoplatov. Nous parlerons plus précisément de ce programme consacré au jeune public avec des trucs absolument formidables, notamment un ciné-concert avec les musiques des dessins animés de Walt Disney, mais les petits dessins animés, ainsi que ceux ceux des Looney Tunes, vous savez, Tom et Jerry, ce genre de choses.
Tout on va venir avec les enfants.
Ah bah oui, il faut absolument. Et tout ça, ça se tiendra donc le 8 juin pour lors d'un ciné-concert, entre autres. Et puis, on évoquera également une expo formidable avec Florence Grivel, ainsi qu'un nouveau groupe à découvrir. Il s'appelle Polygone, ce sera avec Olivier Horner. Vous
on
savez
va faire
tout.
Des maths.
Et on salue Bob Marley qui est revenu par la grâce de Bastien Testori.
L'heure avec Abacus et son logiciel de gestion d'entreprise, abacus.ch.
Excellente fin d'après-midi, il est pile 17h.